c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les deux Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute en écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé. 4 parties bien distinctes aujourd'hui qu'on va vous proposer avec une première consacrée au film Les Petites Victoires. Un vrai coup de cœur Chute, on écoute la télé qui sort mercredi dans les salles. Julia Piaton et Mélanie Offret sont nos invités dans une poignée de secondes. 2 coups de cœur télé à ne pas manquer cette semaine, Fille de Paysan. Mercredi, ça sera donc sur France 2. Julie Manoukian, la réalisatrice, sera accompagnée de Carole Bianic et de Justine Lacroix. Pour en parler, Meurtre en Béarn, c'est le prochain volet de la collection Meurtre 1 qui sera diffusé samedi sur France 3. À cette occasion, on recevra Félicie Roblin, la productrice, la scénariste Elsa Chabrol, mais également évidemment Catherine Marchal et la réalisatrice Delphine Lemoine qui sont avec nous. Et puis en fin d'émission spéciale BDE, le film vient de sortir sur Prime Video. À cette occasion, Michael Youn, Vincent Desagna, Ryan Bensetti et Ludovic vont terminer l'émission avec nous. Une fin d'émission qui s'annonce bien joyeuse encore une fois.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Les Petites Victoires qui sortira le 1er mars au cinéma après Roxane. C'est un deuxième très beau film que nous offre Mélanie Offret ici, qu'on a eu la chance de voir nous au Festival de Alpes d'Huez. Bonjour Mélanie.
Bonjour Alain.
Merci d'être là, on va être rejoint dans un instant par Julia Piaton, ton héroïne dans ce film, parce que je pèse mes mots, mais c'est vraiment une héroïne du quotidien puisqu'on parle désertification des villages et il est vrai qu'on sent toute ta sensibilité que tu y as mis déjà, que tu avais mis dans Roxane, ton court-métrage. Et là, encore une fois, voilà, on sent vraiment cet amour des villages, de la ruralité que tu as voulu aussi montrer et dénoncer par la même occasion.
Oui, c'est vrai que j'ai voulu mettre à l'honneur, pour moi, ces héros du quotidien qui sont les maires de petits villages, parce que je me suis rendu compte en faisant ce travail de terrain, d'investigation, j'adore faire ça quand je commence une histoire, que c'était beaucoup plus que des élus, c'est beaucoup plus qu'une fonction, très clairement, c'est un dévouement, c'est des gens qui donnent tout pour leur village, pour leur administrer, et j'ai vraiment eu envie de les mettre en lumière et les mettre à l'honneur.
Comment est né ce projet justement dans ta tête? Il y a une inspiration, j'imagine.
Oui, il y a une inspiration. J'avais très envie pour un deuxième film de parler de la désertification en abordant ce sujet de manière optimiste parce que j'aime bien finir sur une note positive et en même temps montrer un côté assez social et engagé. Et en fait, je suis tombée sur un article de journal d'un petit village en Charente. Le maire était désespéré parce que son école allait fermer par faute d'effectifs. Il manquait que 5 élèves à son école et le jour de la rentrée, les 5 élèves manquants étaient présents et c'était des moutons. Et je me suis dit, mais incroyable. Et voilà, et je me suis dit, et si nous, au lieu que ça soit des moutons, et si c'était des vieilles personnes qui retournaient apprendre à lire et écrire? Et je suis allée pitcher ça à mes producteurs, qui m'ont dit, va travailler. J'en ai parlé à mon co-auteur, Michael Souhaité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 thèmes qui émergeaient, qui étaient l'illettrisme et le rôle des maires dans les petites communes.
Oui, effectivement, la désertification des villages, manque de commerce, et puis la volonté, effectivement, d'Alice dans ce film incarné par Julia, qui est un peu au four et au moulin, qui est un peu partout, et qui se bat pour faire exister, en tout cas, sa commune. Le rôle de Michel Blanc, il est dingue.
Le rôle de Michel est incroyable, et voilà, gros travail. Enfin, il y a eu beaucoup de travail de terrain, de rencontres. J'ai pris contact avec les porte-paroles de l'illettrisme en France. J'ai aussi été suivre une association en Centre-Bretagne qui accompagne des personnes retournant sur les bancs de l'école pour apprendre à lire et écrire. Et j'ai découvert très clairement un monde d'invisibles, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a presque 7 personnes qui ne savent ni lire ni écrire et qui pourtant ont été à l'école jusqu'à 16 ans et qui, j'ai découvert, ont une intelligence incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont une mémoire photographique, ils ont tous leur permis de conduire, tous un boulot. Et c'est dingue parce que c'est vraiment des invisibles du système.
Non, mais c'est sûr que c'est... Et Michel Blanc joue justement ce rôle d'un homme qui a perdu son frère, qui faisait tout pour lui, qui s'occupait de toute la paperasse, etc. Et qui va décider de se reprendre en main, tout simplement en s'incrustant, littéralement, en s'imposant dans l'école et dans la classe, justement, d'Alice. Et c'est ce que va raconter aussi le film La Lutte, aussi, pour conserver cette classe dans ce village. Mélanie, on a parlé du rôle d'Alice et de Michel, mais il y a des rôles qui sont incroyables. C'est le rôle de tous ces enfants. Ils sont dingues.
Ça a été un énorme travail de casting. J'ai croisé ma directrice de casting l'autre fois. Il y a eu 600 enfants castés pour le rôle, pour les rôles. Donc c'est un vrai travail de fourmi. Parce que je voulais faire appel à des comédiens, des jeunes enfants, mais qui soient amateurs, qui ne soient pas professionnels, pour qu'on sente leur fraîcheur. Il y en avait deux qui avaient une petite expérience, c'est Daphné justement et Adrien. Mais sinon, tous les autres, ça a été du vrai casting sauvage. Et c'est ça, quand on va chercher un enfant pour un rôle, enfin c'est ce qu'on s'était dit, c'est je voulais pas demander à l'enfant de devenir le rôle, je voulais qu'il soit le rôle.
Ils sont dingues. On est rejoint par Julia Piaton pour cette spéciale, justement. Bonjour Julia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On parlait d'héroïne du quotidien. Et je pèse mes mots parce que franchement, le rôle d'Alice, c'est un rôle merveilleux dans une carrière de comédienne, de pouvoir incarner toutes ces facettes que tu as pu nous présenter, en tout cas dans ce film.
Je suis très, très contente que ça vous ait plu. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance que Mélanie me propose une telle partition. Et je l'ai senti tout de suite, déjà le personnage d'Alice, mais très vite, à la lecture du scénario, j'avais envie de rencontrer Mélanie. Parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était écrit, et mon fiancé, qui lit jamais les trucs avec moi, le lisait aussi. Et on se parlait à travers l'appartement, ce qui était dans sa chambre, moi j'étais dans le salon. Et il m'a tout de suite dit, faut que tu fasses ce truc! Parce qu'il y avait une telle justesse dans l'écriture. Je me disais, cette fille, elle sait trop bien de quoi elle parle. Sinon, elle pourrait pas le dire comme ça.
C'est le premier rôle de Julia. Et j'en suis sûre, ce sera le premier d'une très longue série, parce qu'on peut pas, c'est Meryl Streep. Elle est incroyable, cette jeune femme.
En tout cas, elle incarne souvent de très très beaux rôles, mais c'est vrai que c'est le premier grand rôle au cinéma. Puis ce face à face avec Michel Blanc, ça a dû être dingue aussi à vivre quand on est face à un comédien de cette trempe-là.
Oui, et en même temps, il a été très vite, je pense que Michel était vraiment très heureux de faire le film de Mélanie, il le disait très souvent, il était très heureux d'interpréter ce personnage d'Émile. Puis Michel aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets en lui. Alors c'est assez merveilleux de travailler quelqu'un qui est comme ça, parce que d'abord ça c'était tout à fait raccord avec son personnage, mais aussi parce que dans la vie il se révèle lentement, Michel. Et puis aussi, il a été quand même assez saisi par les enfants. Je pense qu'à un moment, il s'est fait un peu cueillir. Et alors là, après, quand il se passait ça entre eux, il n'y avait plus qu'à aller les rejoindre et tout. Ce qui c'était vraiment hyper...
Hyper beau.
Ouais.
Ouais. On va écouter la bande-annonce. Les Petites Victoires, ça sort le 1er mars au cinéma. Et on revient juste après. Une immense comédienne que moi, j'ai eu un plaisir fou à voir dans ton film, Mélanie. On en parle juste après.
J'ai une bonne nouvelle. Je me suis arrangé avec la boulangerie de Boirec. On peut vendre leur pain ici.
Bah, je conteste pas, Alice, mais pourquoi on rouvre pas le bistrot ?
Je crois qu'on détient le record départemental de retraite permis par habitant.
Tu l'as toujours, ta tireuse ?
Qu'est-ce que je vois, madame le maire ? Qui est enterrée à côté de mon Marcel ? Cette garce de Georgette Moreau.
Et alors ?
Elle a toujours tourné autour de mon mari.
Bordel, il y a un trou comme ça dans la chaussée.
On attend son tour.
Oh, ta gueule, la cocu.
Pourquoi tu sais pas lire ?
C'est jamais rentré dans ma tête et puis après j'ai oublié. A, U ?
Non. A, U, ça fait O.
Bah non, ça fait A, U.
Ah non, ça fait O.
Et P, H, ça fait F.
Non, tu déconnes.
Non.
Retour avec notre spécial Les Petites Victoires. Mélanie Offrette et Julia Piaton sont avec nous. On parlait d'une comédienne que moi j'ai eu un plaisir fou, qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu sur un aussi beau rôle, sur la longueur dans le film, parce que souvent on la voit par petites touches, c'est Marie-Pierre Cazé.
Ah ouais, et puis j'adore ce personnage de Janine, qui est très clairement un concentré de mes deux grands-mères. D'ailleurs, une de mes grand-mères s'appelle Janine. Et oui, et Marie-Pierre, elle a cette... elle incarne pas, elle est tout simplement cette Janine de « y a plus ceci, y a plus cela ». Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour elle au casting. J'ai traversé la France pour la voir, parce qu'elle habite une petite maison en Provence. Et quand on est arrivé, elle était accrochée au barreau de son portail, et elle regardait passer toutes les voitures. Et quand je lui ai dit « Marie-Pierre, vous nous attendez ?» Elle nous a répondu « Bah non, pourquoi ?» Et je suis dit « Ok, c'est bon, on a trouvé Janine !» En fait, ce que j'adore, c'est qu'elle parle d'une certaine solitude. Elle incarne une solitude, Marie-Pierre, et qui son personnage a une vraie évolution. Et on sent que c'est un personnage qui a besoin de chaleur humaine, qui a besoin de voir du monde, de parler, d'être écouté. Et c'est en ça que le rôle des mères, d'ailleurs, est indispensable dans les campagnes. C'est une vraie oreille pour ces personnes-là.
Alors moi, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est celle de Noël, du repas de Noël. C'était animé, Julia.
Ah ouais, et puis c'était une scène de rêve, parce qu'on avait des super partenaires. India, R qui joue ma sœur dans le film, c'est quand même une sacrée comédienne qui est extrêmement drôle. Et elle était là, exaspérée par Michel, par Émile, qui se tient mal, qui se croit chez lui, quoi, qui est vraiment le monsieur sans gêne dans toute sa splendeur. Et elle, on sent qu'elle se dit, mais dans quel merdier n'est pas allée se fourrer ma sœur? Comment elle fait pour supporter ça? On voit qu'elle se dit, bon, Alice, là, c'est trop. Elle en fait trop, c'est trop. Donc, tous les leviers de la comédie sont au max. Le personnage d'Émile, que maintenant le spectateur connaît bien, se dit, ouais, quand même, c'est vrai qu'il abuse, mais en même temps, qu'est-ce qu'il est sympa! Et il y a ses enfants aussi toujours là, qui réagissent tellement bien à ce qu'ils entendent du monde des adultes.
Surtout quand il parle de boudin noir. Je vous laisse la surprise dans le film.
Et il y a votre cher Marie-Pierre Cazet qui déboule avec ses problèmes de hanche dans une scène qui se révèle. Et c'est ça, je trouve le talent de Mélanie, c'est qu'on commence par une scène très drôle, très caustique, très animée et tout, puis ça se finit alors qu'on s'y attendait pas. Tout d'un coup, on est embarqué vers quelque chose de très émouvant, qui te cueille un peu parce que Marie-Pierre déboule et puis au détour d'une blague, elle dit quelque chose de très triste aussi, de nostalgique, sur la vie de ses deux sœurs. Et donc c'est ça qui est juste, très juste aussi dans son écriture à Mélanie, je trouve, c'est qu'elle est toujours très proche des émotions des gens, quoi, de comment ça vrille en quelques secondes d'un coup.
On te sent cueillie aussi par ses enfants, ils sont incroyables.
Mais il faut dire que Mélanie, je pense que t'as pris quand même beaucoup de plaisir à travailler avec eux, beaucoup de patience, parce que c'est pas simple d'avoir 9 enfants, c'est du boulot, quoi, c'est vraiment... Pour eux, c'est perturbant au début. La plupart, ils avaient jamais tourné. Donc, même s'ils s'y sont vite mis, le calme que Mélanie avait, le plaisir qu'elle avait de les avoir et de leur dire tout le temps, de leur dire qu'elle était heureuse qu'ils soient là, qu'on était que sans eux, on n'allait pas faire ce film, qu'on avait besoin d'eux et tout. On a fait le film autour d'eux. Et d'ailleurs, quand on a arrêté de faire les scènes avec eux, il y a quand même eu un grand vide.
Ah, ils ont fait. Alors, on a fait. Surtout, c'est qu'on a tourné toutes les scènes en fait dans l'ordre chronologique pour les scènes de classe, parce que je voulais capter vraiment ce que la caméra sente, la naissance des relations entre Michel les enfants,
Elliot et son petit voisin,
voilà,
de classe.
Julia aussi, et puis aussi les enfants entre eux. Ça a été incroyable parce qu'on a mis sur le tournage, on a recréé la classe unique du film. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie que la classe existe, qu'on sente pas que ça soit faux. Donc, on a fait venir une institutrice qui, sur la demi-journée où ils ne tournaient pas, elle leur donner cours dans la classe du film. Et en fait, on sent que c'est leur univers, c'est leur environnement. Et sur chaque scène, voilà, il y avait cette bienveillance aussi entre eux, comme il y a dans les classes uniques.
Oui, parce que pour expliquer en plus la difficulté, c'est que des enfants de cet âge, je peux les faire tourner 4 heures par jour, je crois. Oui.
Exactement.
Comment tu as défini Alice, toi, Julia?
Une personnalité dévouée, courageuse, mais aussi qui tente un peu d'échapper à ses propres problématiques en aidant les autres, comme c'est parfois le cas quand on aide beaucoup, beaucoup tout le temps les autres et qu'on s'occupe pas beaucoup de soi. Ce qui me plaisait aussi, c'est que c'est quelqu'un qui se bouge, qui s'occupe d'une classe, d'un village, qui est jeune, qui est dépassé par les événements, qui doit faire, hein, voilà, faire. C'est pas si courant des rôles féminins comme ça. Voilà.
Une scène de fin qui est très émouvante.
Ça a été incroyable cette journée parce que mon chef opérateur m'a dit, je lui dis qu'est-ce qu'il nous faudrait demain comme journée? Il m'a dit, il faudrait un petit nuage gris et une température à 24 degrés. C'est exactement ce qu'on a eu. Et j'avais vraiment envie qu'on sente que ce village existe. Donc c'était les gens du village aussi là où on tournait. Mais donc j'ai fait danser tout le monde sur une sirtaki. Ce qui est marrant, c'est que juste après, la scène était bonne parce qu'il y avait, on sentait cette fusion, cette joie et on s'est régalé à la faire. Mais même j'avais l'impression que ça nous a tous rapprochés de la faire.
On va terminer par juste citer le village, justement, dans lequel vous avez tourné, parce que s'il y a des gens qui vont voir le film et qui ont envie d'aller voir les décors.
Ah bah bien sûr, ce village s'appelle Le Juc, et il faut savoir que j'ai visité 80 villages en Bretagne avant d'avoir le coup de cœur pour Le Juc, et j'embrasse très très fort tous les Jucois, le maire, monsieur Patrick Tanguy, on vous embrasse tous très fort et vive la Bretagne.
Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous, merci Mélanie, merci Julia, et puis on espère vous retrouver très vite pour d'autres aventures, en tout cas dans Chut on écoute la télé, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Dans un instant, Chut on écoute la télé continue, spécial filles de paysans, meurtre en Béarn et BDE, c'est dans un instant, à tout de suite.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va parler du film Filles de paysans qui sera diffusé mercredi sur France 2. Un film avec Thierry Godard, avec Carole Bianic, avec Justine Lacroix et réalisé par Julie Manoukian. Bonjour Julie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous après les Vétos. On a eu l'occasion de se rencontrer avec ce très très beau film. C'est pour la télévision que tu réalises en tout cas ce film qui va être diffusé en plein salon de l'agriculture, qui va raconter la véritable histoire d'Émilie Ducourneau, qui a lancé un appel à l'aide sur les réseaux pour sauver de la faillite la ferme de ses parents, alors qu'ils ne savaient plus du tout comment ça allait se passer. Et ils étaient au bout du rouleau en quelque sorte. C'est une vraie belle histoire que tu nous racontes là.
Oui, la famille des l'histoire des Pécourneau, elle est particulière, et c'est vrai que j'étais très touchée par le scénario quand je l'ai reçu, qui a été écrit par Monica Ratazzi, et voilà, j'ai eu un coup de cœur tout de suite pour cette histoire et pour ce que Monica avait fait à partir de leur histoire. Le scénario étant très fidèle à ce que la famille a vécu. Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance qu'on me propose de le mettre en image, et ça a été une très belle aventure.
Après les Vétos, c'est encore le monde rural auquel tu t'attaques, c'est un monde auquel tu es très attachée.
Alors j'étais la première surprise de cet enchaînement, parce que même si comme tout le monde j'ai des racines à la campagne, pour moi elle remonte un peu quand même, et je m'attendais pas ni à faire les Vétos ni à enchaîner avec Filles de paysans. Mais de toute façon, comme pour les Vétos, la réalité de la vie des Pécourneau, c'est qu'aujourd'hui des gens qui vivent les difficultés qu'ils ont rencontrées, le surendettement, évidemment ça frappe avant tout les agriculteurs, mais ça touche tout le monde. Et leur histoire, elle a quelque chose d'universel dans le courage et l'amour qu'a déployé leur fille pour venir en aide à ses parents. Tout ce qu'ils ont dû surmonter, parce que les temps sont durs hein, pour tout le monde.
Quand tu les as rencontrés la première fois, les Pécourneau justement, et que vous avez eu ce premier lien qui allait vous unir pour quelques mois pour le tournage de ce film, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?
Bah, ils étaient assez curieux. Moi, je suis arrivée sur le projet assez peu de temps avant qu'il se tourne finalement. Donc, eux avaient déjà fait tout un travail de préparation avec la production pendant l'écriture du scénario. Quand moi je les ai rencontrés, ils étaient un peu excités parce que le tournage approchait. Et puis surtout, moi, ce qui m'a frappée très fort, c'est que Joël Pécourneau et Muriel Pécourneau étaient très très émus de pouvoir faire ce cadeau à leur fille, puisque leur fille leur a sauvé la vie hein, d'une certaine façon, et pour eux raconter leur histoire de cette façon-là, c'était une façon de rendre à Émilie ce qu'elle avait fait pour eux, et ça m'a beaucoup touchée.
On a envie, celui qui vient faire le contrôle, on a envie de le baffer. Non mais clairement, on a carrément envie de le baffer, parce que tout part d'une histoire de poulet et d'une voisine qui vient se dépanner d'un poulet qui donne 10 euros pour dépanner cette famille, et un contrôle sanitaire derrière vient pour vente de volailles illégales, et c'est là que l'enchaînement se fait.
Oui, c'est vraiment un problème de déshumanisation. Pour moi, on a essayé de rendre ce fameux contrôleur pas comme quelqu'un de mauvais par essence. C'est le rouage d'une machine. Et l'idée, c'est de faire comprendre aussi à un moment que lui-même, il est pris dans cette machine. Il y a une histoire, vous verrez dans le film, de normes. Il y a l'Europe qui se mêle de tout ça. Il y a tout un tas de choses qui viennent leur mettre des bâtons dans les roues. Mais au final, les solutions peuvent émerger quand les gens se parlent et ils viennent en aide, et moi c'est ça qui m'a plu surtout dans leur histoire.
Ouais, parce que c'est une histoire humaine avant tout. On va écouter un extrait, Julie, et on va accueillir Justine justement et Carole qui vont nous rejoindre dans une poignée de secondes, le temps de la bande-annonce, et on revient juste après Filles de paysans. C'est mercredi à 21h10 sur France 2.
Joël Pécourneau.
Oui, c'est moi.
Emmanuel Pinault, contrôleur préfectoral.
7000 euros pour un poulet vendu 10 euros.
Donc vous reconnaissez la vente de poulet?
Ça se fait entre voisins, on va pas vous rendre une amende pour ça.
Papa, t'as des soucis?
Ce qu'il faut, c'est de l'argent. T'en as de l'argent, toi.
Mon père, il a voulu mourir parce qu'il croit qu'il n'y a plus rien à faire. Moi, je ne peux pas rester là, les bras croisés.
Filles de paysans, c'est notre coup de cœur télé des mercredis sur France 2. On continue à en parler. Julie est restée avec nous, évidemment. Et Justine Lacroix nous a rejoint. Bonjour, Justine. C'est l'année Justine Lacroix dont je suis ton écoute de la télé cette année, hein, Justine.
Bonjour. Oui, il faut croire.
Bon, en tout cas, si vous voulez voir 7e ciel avec Justine, c'est encore sur OCS à la demande. N'hésitez pas à aller découvrir cette magnifique série dont on vous a parlé en tout début d'année. En tout cas, en moins de 2 mois, voilà, c'est un grand plaisir de te recevoir. Puis alors, celle qui a mis le rôle de Sophie Novak un peu au vert, dans Demain nous appartient, le temps de justement de nous offrir ce très beau rôle dans Filles de paysans, c'est Carole Bianic qu'on reçoit pour la première fois. Merci d'être avec nous, Carole.
Eh bien, bonjour, enchantée.
Bon, en tout cas, c'est un film magnifique qu'on a découvert avec toute la sensibilité de Julie qu'on connaît. Et donc, Justine, tu joues le rôle d'Émilie Pécourneau, qui va venir au secours de ses parents en quelque sorte. Comment ça s'est passé, Justine, et est-ce que tu as rencontré justement Emilia avant? Comment t'as fait pour t'imprégner en tout cas de son histoire?
Non, déjà je n'ai pas rencontré Emilie Pécourneau avant le tournage. Mais elle est venue sur le tournage quand même, donc ça m'a fait chaud au cœur de la rencontrer, puisque comme c'est son histoire en fait, c'était très touchant. Mais pour m'imprégner du personnage, je pense que... Carole l'a expliqué avant. C'est un peu, comment dire... Enfin, c'est un peu de nous, puisqu'on nourrit le personnage, mais... Enfin, d'un côté, c'est pas notre histoire. Mais comme l'histoire, en fait, était très touchante, enfin, même enfin, toute l'équipe, on a adoré ce tournage, parce que c'est pas une... Voilà, c'est pas une histoire banale, et d'habitude, on a tout le temps ces mêmes histoires qui reviennent autour de la fiction, des policiers, etc., que là, travailler sur une histoire des agriculteurs, c'était touchant.
Carole, on a l'impression, en tout cas, on ressent dans le film Muriel, c'est l'éternel positif. Jusqu'au moment où ça devient difficile de rester positif, mais c'est vraiment, on a l'impression que c'est l'éternel positif, en tout cas.
Ah oui, elle est comme ça, effectivement. Et puis c'est écrit comme ça. Et c'est ce qui est touchant, c'est qu'elle va y croire. De toute façon, elle a pas le choix, en fait, que de porter sa famille. Et je pense que souvent, on nous dit dans une famille, voilà, vous portez tout, vous portez. Mais je crois que c'est pas conscient. Ça va de soi. Et jusqu'au moment où, effectivement, elle lâche prise. Et ça, pareil, c'est quelque chose. Je pense qu'on pourrait tous vivre. Il y a un moment, c'est trop, on craque. Et je pense que c'est aussi, si elle n'avait pas craqué, ça serait peut-être pas arrivé. Ce qu'Emilie a fait ne serait peut-être pas arrivé, en fait.
Le monde agricole, comme beaucoup de monde, est en détresse aujourd'hui. On peut parler du monde médical, mais le monde agricole aujourd'hui, c'est au moins un agriculteur chaque jour qui se suicide. C'est quelque chose qui est assez terrible quand on tourne une fiction comme ça. Est-ce qu'on ressent le poids de ces histoires d'hommes et de femmes du quotidien qui se battent pour survivre en quelque sorte?
Oui, c'est pas tout le milieu agricole, mais effectivement, quand on tourne ce film, c'est l'absurdité de ce qui s'est passé, et c'est de se dire mais comment. Et quand on raconte cette histoire, souvent les gens font mais non, c'est scénarisé, c'est fictionné, c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, on vend un poulet, c'est illégal. C'est terrible, voilà, de voir que ça peut arriver et qu'on peut tuer des gens juste parce que on respecte pas une loi improbable, insensée.
Et on le voit très bien justement dans le film, c'est cet engrenage infernal que peuvent vivre justement des agriculteurs pour justement un petit rouage à un moment donné qui vient se gripper, quoi.
C'est ça, exactement, c'est ça qui est insupportable, c'est l'engrenage, c'est-à-dire qu'une fois que la machine est lancée, comme on le disait tout à l'heure, c'est très difficile de l'arrêter. Et pour revenir sur la question précédente, est-ce qu'on porte quand on raconte ces histoires-là, ce qui est fou, c'est que il y a le premier choc de la lecture du scénario, on se dit non, effectivement, c'est pas possible, et on découvre que si. Et puis ensuite, quand on vient en région, qu'on cherche les décors et qu'on va à la rencontre des gens pour savoir où est-ce qu'on va raconter cette histoire, on rencontre sur place, comme sur mon film précédent, des agriculteurs, et on leur parle du scénario et on se rend compte que ils connaissent tous quelqu'un qui a vécu ça, quoi. Le surendettement, la spirale, la confrontation à des normes qui n'ont pas de sens, surtout le changement constant de normes, parce que c'est ça le truc des normes, c'est qu'elles n'arrêtent pas de changer. On dit souvent que la réalité dépasse la fiction, et avec ce film-là, c'est tous l'impression qu'on a eue. Malheureusement, c'est beaucoup de gens connaissent ce qu'on raconte.
Justine, qu'est-ce que t'as dit, Émilie ?
Si, elle m'a un peu raconté son histoire, donc ça m'a touchée, et la voir sur le plateau, ça a été dur par moments, parce qu'elle n'arrivait pas forcément pour les scènes les plus gaies, donc ça a été très compliqué de la voir dans cet état-là. Enfin, j'ai essayé de l'aider, enfin de lui parler le mieux que je pouvais, mais... C'est très compliqué, quoi.
En tout cas, cette famille est assez incroyable. En tout cas, regardez. C'est mercredi, c'est 21h10 sur France 2, Thierry Godard. Et formidable. Il y a toute une pléiade, évidemment, de comédiens formidables dans ce film. Et voilà, en espérant que ça va sensibiliser, ouvrir les consciences, essayer d'ouvrir le dialogue aussi en plein salon d'agriculture. C'est évidemment nécessaire. Merci beaucoup. On termine par vos projets. Carole, est-ce qu'un petit retour dans Demain nous appartient est prévu ou pas? Ou est-ce que Sophie Novak reste au pour l'instant?
Elle s'occupe de son jardin pour l'instant. Elle prépare son potager pour cet été.
C'est ce qu'on va voir mercredi, du coup.
Exactement.
Bon, pas pour le moment, donc, du coup. Il y a d'autres projets pour 2023, en tout cas?
C'est temps pour parler. Je peux pas, pour l'instant, je peux rien avancer.
Bon, comme c'était la première fois dans Chute, on écoute la télé, ce sera pas la dernière, j'espère. Donc, ce sera le moment de revenir nous en parler. Hein. Justine, 2023, d'autres choses qui arrivent? Après 7e ciel, encore sur OCS, Fille de paysan, mercredi. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
normal d'Olivier Babinet. En avril, il sortira aussi au cinéma.
Super. C'est ton année. Voilà. Julie, des choses qui se préparent aussi? T'as un film en post-production, là? Je crois, déjà pour la télévision de près?
C'est ça, je suis en train de finir le montage image et le montage son d'un unitaire qu'on a tourné en décembre pour France Télévisions à Marseille. Et puis là, j'ai deux projets de long métrage qui partent en casting.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé s'appelle Meurtre en Béarn. On fête les 10 ans de la collection Meurtre cette année. Et eh bien, on va s'en aller justement dans notre région de Nouvelle-Aquitaine. Mais sud, vraiment sud, les Pyrénées. Ce coup-ci, avec Félicie Roblin, la productrice qui est avec nous. Bonjour Félicie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Elsa Chabrol, la scénariste. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Merci d'être là aussi. Delphine Lemoine, la réalisatrice. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Et puis une grande habituée de notre émission qu'on a toujours un grand plaisir, évidemment, à voir aussi, Catherine Marchal. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, c'est une aventure à couteau tiré, on va en parler avec un binôme d'enquêtrices, avec Isabelle Otero que tu formes justement, Catherine, qui est vraiment chouette. On va voir que ça se frictionne pas mal, c'est ce qui crée un petit peu justement tout le piment. Mais déjà, je vais m'adresser un peu à la productrice pour commencer. Félicie, pourquoi dans le Béarn?
Alors c'est vraiment totalement arbitraire, c'est parce que j'ai passé il y a 10 ans des jours de vacances dans le Béarn, que je connaissais pas du tout, j'ai trouvé que c'était splendide, et comme le principe du meurtre c'est quand même de mettre en valeur une région, je me suis dit que 50 nuances de vert trouveraient leur place, voilà.
Alors évidemment, après au scénario, eh ben, il faut adapter cette envie-là au Béarn, donc comment on s'y prend justement, Elsa?
C'est-à-dire que le principe de la collection, c'est de partir d'une légende. Il y a une magnifique légende à Sauveterne en Béarn, qui est la légende du pont, enfin le pont de la légende, on l'appelle, qui est celui de la légende de la reine Sancy, et c'est parti de là. Voilà.
Delphine, à la réalisation, est-ce que c'est une région que vous avez découvert ou vous connaissez déjà un petit peu avant?
Non, je connaissais très peu. J'étais venue une fois passer une semaine dans la vallée d'Ossau, dans ce coin-là. Et j'avoue que j'avais beaucoup apprécié les paysages, mais je connaissais pas énormément. Donc quand on m'a proposé Meurtre en Béarn, j'adore découvrir des régions. Donc j'ai vraiment découvert le Béarn, les Pyrénées et toute cette région qui est magnifique. Et les gens aussi qui sont très sympathiques. Donc on a été très bien accueillis et on a passé un très très bon moment en tournant ce film.
Et vous avez pu filmer dans de belles conditions, Laurent Sainte-Marie, Pau, voilà un petit peu partout, en tout cas pour mettre en lumière cette région.
Bah, le principe de la collection aussi, c'est de jouer le jeu de la région, c'est-à-dire de mettre en avant une région, donc de montrer, moi j'aime bien venir un petit peu avant, de m'imprégner de la région, de voir comment ça fonctionne, comment sont les gens, comment ils vivent, les paysages, l'ambiance, et d'essayer de retranscrire ça dans le film le mieux possible, afin que les gens, en sortant du film, se disent « Ah, il faut qu'on aille dans le Béarn s'ils ne sont pas encore allés ». Et apparemment, c'est le cas.
Bon, Catherine quitte son costume de grand chef pour retrouver son costume de flic. Hein, retrouver, on va dire, parce que c'est pas la première fois qu'elle l'endosse.
C'est mon costume de grand chef indien. Chef, ça suffira en fait.
Ouais, c'est ça. C'est un peu la revanche de la blonde contre la brune, là. Ça rigole pas avec Isabelle Otero. Il y a vraiment des jolies scènes toutes les deux. Tu joues le rôle d'Héloïse qui revient. On sent bien tout de suite, hein, qu'il y a un contentieux entre les deux femmes qu'on va découvrir évidemment au fur et à mesure. On va pas tout dévoiler pour laisser aux spectateurs ce mystère. Mais qu'est-ce qui t'a plu en premier, en tout cas, dans cette histoire, Catherine?
Ce qui m'a plu d'abord, c'est que les deux rôles principaux étaient tenus par deux femmes. Non seulement deux femmes, mais deux femmes en plus de plus de 50 ans, comme on dit maintenant. Et donc, c'était la première fois, je crois, dans cette collection-là. Et donc, j'ai trouvé qu'il était temps et que c'était bien que ce soit moi qui le fasse aussi, tant qu'à faire. Et puis, l'association avec Isabelle, c'est vrai qu'on est dans le métier tous les deux depuis très longtemps. On se connaît, on s'est croisés 10 000 fois. Donc, de se retrouver là, toutes les deux, je trouve que c'était, voilà, c'était une belle surprise pour elle aussi et pour moi. Et puis, effectivement, on est la lune et le soleil, quoi. Je sais pas qui est la lune, qui est le soleil, mais en tout cas, c'était une association parfaite, je pense.
Alors, si elles ne s'entendent pas, elles vont être flanquées chacune, en tout cas, d'un stagiaire qui et d'une stagiaire qui, eux, vont s'entendre plutôt bien. Même très bien, on va voir au fur et à mesure Maëva et Larroussi, qu'on a grand grand plaisir en tout cas à retrouver aussi dans ce film, qu'on retrouve aussi bien sûr dans Un si grand soleil. Le casting, on va en parler, on va évoquer un peu tous ces membres de casting, Delphine.
Bah, le casting, c'est toujours un moment essentiel et très important sur un film. Donc c'est un moment que j'adore parce que c'est là où les personnages du film s'incarnent. Donc ça commence par le choix et puis après le travail qu'on va faire avec les comédiens. Donc il y a eu que des évidences. Donc je suis ravi de tous ces choix, à commencer évidemment par mettre des comédiennes principales où il y avait une espèce de cohérence et d'évidence de former ce duo de ces deux comédiennes par rapport aux personnages qu'elles incarnent dans l'histoire. Et effectivement après c'est d'essayer de juste, pour moi il y a pas de petit rôle en fait, donc juste n'importe, juste au plus petit rôle entre guillemets, j'essaie toujours de trouver trouver le comédien, la comédienne qui va être parfaite pour le rôle. Et je pense que là, le job est bien rempli. Les comédiens étaient tous bien. Et voilà, c'est à chaque fois une belle aventure humaine. Mais c'est un vrai travail, le casting. C'est vraiment, par rapport à une histoire, on projette des choses, on imagine, et puis au final, on a des surprises aussi. Et puis on a des convictions. Donc là, il y a des fois des vraies convictions. On se dit, bah voilà, c'est tel comédien. Il y a une évidence. On est rarement déçu quand on sait ce qu'on veut.
On va écouter un petit extrait. Meurtre en Béarn, c'est samedi, et on va planter le décor un petit peu. Juste, voilà, expliquer un peu à nos auditeurs comment ça démarre sur les 2-3 premières minutes et vers quoi on va les embarquer tout doucement. Voici tout de suite un extrait. On revient juste après avec notre équipe.
Jeanne, j'ai pas demandé à être sur cette enquête. Maintenant, il est clair que nos histoires de famille ne doivent en aucun cas interférer dans notre travail.
Ok. Tu me laisses parler au mari, je l'ai connu gamin.
Non, pas question. Sa première réaction peut être déterminante pour l'enquête. On n'a aucune marge d'erreur, donc tu dis pas un mot.
Tu déconnes, là, Héloïse.
Bon, on va mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. Je suis colonel, donc ta supérieure, donc tu obéis à mes ordres.
T'as entendu le procureur, colonel ? On doit collaborer.
Notre spécial meurtre en Béarn. Alors vraiment la spécificité là, et ça c'est chouette, c'est que là on a affaire à un meurtre vraiment produit, écrit et réalisé par une femme et avec un binôme de femmes. Là c'est vraiment une histoire de femme. Félicie.
C'est totalement volontaire et il est même produit par deux productrices, Julie Péris et moi-même. Donc on avait envie, c'est pas qu'on n'aime pas les hommes, hein, et il y en a des très bien dans le film, mais on avait envie que ça soit conduit par des femmes. Et je pense que Catherine parlait de rôles de femmes qui sont pas forcément évidents à la télévision. Il y a eu beaucoup de, enfin même dans le cinéma, il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Et en plus, ce sont des femmes qui ont un enjeu personnel, intrapersonnel entre elles. Quand elles parlent, elles parlent pas forcément d'hommes, elles parlent de l'enjeu qui est leur amitié.
Elsa, quelque chose à rajouter du coup ?
Ça a été un grand plaisir en tout cas de travailler avec cette production, avec Delphine, voilà. Moi j'avais très envie de mettre un couple de femmes, d'amis, traitées de l'amitié, et justement de femmes qui ont plus de 50 ans. Parce qu'en effet, il n'y en avait pas beaucoup.
Et c'est ce qui a séduit aussi France Télévisions, puisque effectivement, dans cette équation des meurtres, ils font un tableau, Anne Holmes l'expliquait dans une interview, pour parler de, voilà, les lieux, les enjeux, les types de duos, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se répéter. Et finalement, c'était assez nouveau pour eux, donc ça les a séduits, ce qui veut dire aussi que la télévision évolue, même dans des séries qui sont très installées.
On plante un petit peu le décor, tout commence par une balade en canoë, quand évidemment, les deux protagonistes découvrent un corps. A-t-il été jeté du haut d'un pont ? Que s'est-il passé ? Avec, on va dire, une partie de bras en moins. Et un petit médaillon avec, évidemment, une légende. C'est toujours un peu le fond de ces collections. Et c'est là que Isabelle Otero et Catherine Marchal viennent justement enquêter et essayer de résoudre les mystères. C'est toujours empreint, évidemment, de rancœur, de secret du passé. C'est aussi ça, le secret de la réussite de cette collection, hein, finalement.
Oui, ça mélange toute l'enquête avec les histoires personnelles, les secrets de famille, les réconciliations aussi et les histoires d'amour qui naissent, qui sont adorables. Moi, ça m'a beaucoup séduit. Le petit couple de nos stagiaires, ils m'ont beaucoup touché, ces deux-là.
Oui, parce que c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a touché aussi quand j'ai pu voir le film. C'est vraiment de voir un peu l'antipathie, cette guéguerre que se mènent les deux enquêtrices, et de voir ces deux stagiaires qui, au contraire, ça les fait se rapprocher. J'ai trouvé ça très finement, en tout cas, écrit, réalisé et joué de cette façon-là. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui va ressortir de ce tournage pour toi, Catherine ?
Bon, je donne un peu les coulisses du tournage. On a commencé par la fin. Donc, on a commencé...
Donc, vous saviez qui avait tué avant même de commencer à tourner ?
Voilà, donc du coup, moi qui n'avais pas lu, on me dit la fin, c'est pas possible. Moi, je pensais garder le suspense jusqu'au bout. Et donc, les 3 premiers jours de tournage ont quand même été assez épiques, puisqu'on a eu les 3 jours de pluie du tournage. Donc, la pluie qui est dans le film n'est pas du tout une fausse pluie, comme on pourrait l'imaginer, parce qu'elle convient très bien à cette fin. Mais malheureusement ou heureusement pour le film, elle était vraiment là. Et donc, on a eu donc très froid, on était très mouillés, l'équipe aussi était très mouillée. Et donc, c'est un souvenir où on avait l'impression d'avoir tourné 2 mois, alors qu'on avait tourné que 3 jours. Donc, on était au bout de nos vies. Tous physiquement, et on s'est dit qu'on va faire la suite.
Imaginez vos confrères du meurtre à Pont-Aven, un mois de pluie, hein, quasiment.
Ils devaient s'y attendre, alors que nous, il y avait eu.
C'était une surprise.
Il y avait eu 3 mois, j'adore la Bretagne, hein, mais il y avait eu 3 mois de soleil, et les gens de Sauveterre en Béarn nous disaient la bouche en cœur, oh, ça fait 3 mois qu'il n'a pas plu, vous n'avez pas de chance. Parce qu'effectivement, on s'est pris
une pluie, mais drue, comme je n'ai jamais vu. Et je dois dire que Delphine a été héroïque, parce que moi, j'ai cru que tout le monde allait craquer. Et les comédiennes, l'équipe technique, ils étaient tous sous des draps avec des pantalons, justement, de pêcheurs bretons, là, en plastique. C'est vrai que ça commençait dur, mais c'était un peu l'épreuve du feu, si j'ose dire, même si c'était la pluie.
Comment on s'adapte, Delphine, justement, là, dans ce genre de cas?
On garde le sourire, ça c'est très important, on garde le sourire, on garde la foi. En fait, ça soude une équipe et moi j'avoue que bon, j'ai fait quelques tournages sous la pluie, donc je commence à avoir l'habitude et j'ai appris à positiver, à dire qu'en fait c'est un mal pour un bien et qu'en fait ça donne de très belles images. Il n'y a pas que le soleil qui donne de belles images. Moi je suis parti du principe qu'on avait de la chance parce que, bah, pour rentrer aussi un peu dans les coulisses et dans l'historique de ces trois jours, pour être exact, en fait le premier jour, pour vous raconter ces petites anecdotes, le premier jour il ne pleuvait pas, c'était menaçant mais il ne pleuvait pas. Et on faisait la scène de crime. Et une scène de crime sous la pluie, c'est vraiment pas drôle. Parce que là, c'est très compliqué à tourner. Quand on a un cadavre au sol et qu'il pleut des cordes. Enfin bon, voilà. J'ai déjà fait, on est obligé de mettre des tentes. Enfin bon, on est obligé d'improviser des choses un peu compliquées. Donc là, on a eu de la chance. Et en plus, il se trouve qu'on tournait au bord du Gave. Et que l'endroit où on avait prévu de faire la scène de crime, le lendemain, a été totalement inondé. Donc si on n'avait pas tourné le premier jour, parce que c'est dès le lendemain qu'il a plu des cordes, on n'aurait pas pu tourner la scène de crime telle que je l'avais imaginée. Et ça aurait été vraiment dommage. Donc en fait, c'était tout à fait positif. Et puis pour la tension de la fin, de toutes les scènes de fin, je trouve que la pluie apporte vraiment quelque chose. En fait, c'est très compliqué pour tourner, pour les équipes, techniquement, parce que le matériel qui prend la pluie, ben, c'est compliqué. Et puis on patauge, et puis effectivement on a des couches, enfin c'est, voilà, c'est chiant. Mais par contre, en termes de pour l'image, pour la comédie, pour l'histoire du film, pour la dramaturgie, ça peut être vraiment un plus. Donc moi ça ne me dérange pas quand il pleut, si ce n'est que c'est pas très agréable pour travailler.
Bon, et pour ceux qui sont pas de la région, on va spécifier que le Gave, c'est pas que vous en aviez marre, hein, c'est juste justement quelque chose qui peut se transformer en torrent et très vite voilà, dépasser et inonder. Donc voilà, c'est le Gave de Laurent et c'est une rivière effectivement. Merci en tout cas à toutes les quatre d'avoir été avec nous. J'étais très bien entouré pour cette spéciale aujourd'hui. Meurtre en Béarn, eh bien c'est samedi sur France 3. Merci beaucoup Delphine, merci Catherine, merci Elsa et merci Félicie. Catherine, on continue à te retrouver évidemment dans Ici Tout Commence tous les jours, du lundi au vendredi à 18h35 pour notre plus grand plaisir. On se dit à très vite.
À très vite.
Si, merci, merci.
Au revoir Alain.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Et dans un instant spécial BDE, Michael Youn, Vincent Desagna, Ryan Bensetti, Ludovic nous rejoignent. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on démarre notre spécial BDE, c'est la sortie événement de ce week-end qui vient de passer sur Prime. Et je peux vous dire qu'on va rigoler, on va prendre une bonne bouffée d'air frais. Et surtout, on va évidemment rire. Et ça, c'est la marque de fabrique de Michael Youn qui est avec nous. Salut Michael.
Salut.
vous êtes déjà dans le film ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Je suis encore dans le film. Je suis encore en train de faire la fête avec toute la promo.
On va en parler de ce chalet, on va parler de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a pu rire effectivement en voyant ce film à l'Alpe d'Huez? Vincent Desagna va d'ailleurs nous rejoindre dans un instant. On va voir Ryan Bensetti, Ludovic. Une grande spéciale où là en fait il s'agit du bureau des étudiants où ancienne génération et nouvelle génération vont se confronter et se rencontrer pour le meilleur mais surtout pour le pire. Hein.
Effectivement, c'est pas vraiment pour le pire, puisque quand ils vont se retrouver ensemble, ils vont faire des étincelles. Quand la vieille bande de potes va tomber sur les étudiants, passer la confrontation, passer le concours de caquettes, hein, si vous me passez l'expression, belle amitié va naître au milieu, c'est vrai, d'un chaos assez incroyable.
Et oui, et en plus t'as réuni un casting de fou. Alors comment est né ce projet déjà, Michael?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... Moi, je viens d'une école de commerce. J'ai fait Sup de Conis. Et il y a quelques années, à force de recevoir un mail de l'école qui me demandait de venir faire part de mon expérience et témoigner auprès des étudiants de ce que j'avais vécu lors de mes années de businessman, j'ai rencontré un peu le Michael Youn d'aujourd'hui, le Michael Youn de 2019. Et le choc des générations a été un petit peu violent. On s'est tout de suite piqué un peu l'un contre l'autre et je me suis dit qu'il y avait un début de film à faire, voilà, sur être et avoir été, sur c'est quoi d'essayer de rester un grand enfant, c'est quoi les années fac, c'est quoi la nostalgie avec laquelle on regarde ces années-là, c'est quoi l'excès, c'est quoi tout ça.
Alors évidemment des paysages merveilleux en plein mois de février, sortir un film tourné à Val Thorens, c'est génial.
Et on l'a tourné effectivement à Val Thorens. C'est pas simple hein, de tourner dans une station de ski. Il y a des conditions météo qui sont extrêmement changeantes. Il y a des gens qui sont en vacances, donc ils n'ont pas du tout envie que nous on tourne un film. On a tiré des coups de feu, des feux d'artifice. On a sorti un ours, une dameuse. On a couru à 150 dans les rues de la station. On s'est pas fait beaucoup de copains à Val Thorens. Ils étaient très contents qu'on parte.
Et surtout Madame le maire, Virginie Hoc. Elle est incroyable.
Ah ouais, elle est super. Alors, en l'occurrence, à Val Thorens, il n'y a pas vraiment de maire, puisqu'il y a un directeur de la station, et la station dépend d'une ville qui est un petit peu plus bas dans la vallée. Mais c'est vrai que dans le film, en revanche, c'est Virginie qui joue la mère de Val Thorens, et elle est très inspirée par Valérie Pécresse, pour ceux qui se souviennent de Valérie Pécresse.
Pour ceux qui s'en souviennent, c'est ça. Bon, en tout cas, Mickaël, il y a plein de beaux moments. On va les évoquer avec Ryan, Ludovic et Vincent qui va nous rejoindre dans quelques instants. Allez, on va s'écouter un petit extrait. Ça s'appelle BDE. Ça vient d'être en ligne sur Prime. On va beaucoup rire. Je vous le dis, Vincent Desagna nous rejoint juste après. Merci beaucoup, Mickaël.
Gros bisous.
Bisous, à très vite.
Un appel masqué à 7h.
Décrochez, c'est peut-être quelqu'un d'important.
Raphaël Nadal.
Rafa est intéressé par votre chalet et voudrait visiter avant de l'acheter.
Tant qu'il n'a pas acheté, c'est pas Ibiza dans mon chalet.
C'est bon, j'ai réussi à me libérer. Opération Bioman lancée.
La vue, mes potes, la vue.
BDE, évidemment, la sortie Prime Vidéo à ne pas manquer avec Vincent Desagna. Je suis tellement fan de toi, Vincent, tu le sais. Comment ça va?
Ça va super, merci beaucoup.
Bon, je suis fan de ton humour et de votre humour à tous, parce que évidemment, moi j'étais baigné à la génération Morning Live. Et le bonheur de vous voir tous les trois dans ce film, que ce soit Benjamin Morgan, toi et Mickaël, c'est un vrai bonheur. Et puis une aventure complètement déjantée, quoi.
Bah oui, hein, c'est complètement fou. C'est un exercice difficile et agréable de faire cet humour-là, de faire de la bêtise maîtrisée, voilà. Et ça, on adore ça avec Mickaël et Benjamin, depuis toujours.
T'as une scène de roue, mais alors j'espère qu'elle a été faite en plusieurs fois, parce que celle-là, ça m'étonne pas dans l'état qu'on t'a retrouvé. Hein.
Ça a été fait en une journée intense, où j'avoue, alors je me suis marré à faire ça, parce que c'était très drôle d'être dans cette boule, mais c'est vrai qu'au bout de 20 minutes de roulade, j'avais un peu la tête qui tournait, un peu la gerbe, pour de vrai. Voilà, parce que bon, on va pas tout dévoiler les secrets de tournage, mais forcément le vomi, c'est de la soupe, quoi.
Ouais. Plusieurs prises, évidemment, en plus, donc tu tombes pendant un sacré bout de temps. Et là, tu te retrouves face à un trio. Je sais pas comment on peut les appeler, mais avec un des trois, évidemment, je suis fan aussi, c'est Cartman. Ah oui, ils sont dingues tous les trois aussi.
C'est la famille, Cartman, et c'est le bonheur d'avoir pu partager ces scènes avec lui, parce que il fait partie de notre famille d'humour depuis toujours.
On sent l'amusement total. Vous êtes des éternels enfants tous.
C'est un bonheur de maîtriser la bêtise. Voilà. Vraiment, on aime ça. De toute façon, ça se verrait si on faisait ça pour le succès ou pour l'argent, ça se verrait et ça marcherait pas.
Comment tu le définis, ton personnage? Moi, je dirais un peu lunaire.
Ah bah oui, forcément. Et puis ça se rapproche un peu de ce que je suis. Mickaël a écrit ce personnage en pensant à moi, donc un peu ce que je dégage depuis toujours. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais su dire non et qui accepte et qui subit depuis toujours, et qui est un peu le suiveur de la bande depuis l'école de commerce et depuis les études. Et du coup, cette aventure lui fait prendre conscience qu'il peut se permettre de dire non, et après il en profite et ça le fait évoluer, et puis voilà, ça fait du bien, quoi.
Cette amitié qui existe depuis plus de 20 ans entre vous, elle est tellement belle à voir. Ouais. Que ça soit dans les émissions de télé, le Morning Night qui est revenu pour notre plus grand plaisir aussi, et je crois qu'il y a deux numéros d'ailleurs qui sont tournés, qui sont pas encore diffusés. On s'éclate avec vous, et ça, c'est un vrai bonheur. Est-ce qu'il y a une scène particulière qui va rester pour toi en mémoire sur ce film, que tu te souviendras pour BDE en tout cas?
C'est-à-dire qu'il m'a tellement écrit de scènes folles que à la rigueur, peut-être la fin de la boule, ou la petite référence à Terminator, sans
trop dévoiler plus,
sans spoiler, sans divulgacher, comme on dit.
Les projets pour 2023, Vincent, donc le retour du Morning Night pour deux nouveaux numéros sur M6.
Ouais, et puis Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, et donc voilà où je campe le bas. Je pense que vous avez vu, je campe le rôle de Perfidus, le conseiller personnel de César, et un plaisir à faire aussi.
Merci Vincent d'avoir été avec nous.
Grand plaisir, merci à toi.
Et on te dit à très vite, on continue notre spécial BDE. Dans un instant, Ryan Bensetti et Ludovic vont venir nous rejoindre. Et juste avant, on va se faire un extrait. On va pas bouder notre plaisir, merci à toi.
Écoutez une chanson à la place.
Oh ben, oui. Gala, Fruit from Desire.
Allez, c'est parti.
Allez, c'est parti alors.
Le différend devrait être réglé par une alcoolympiade. Mais y'en a marre de vos conneries, les grandes écoles!
On s'excuse, madame.
Madame la mère.
Ça ne se reproduira plus, c'est fini.
Faites qu'ils abîment rien.
BDE avec deux autres comédiens qui nous rejoignent, qui jouent les rôles de Pablo et Samy, Ludovic et Ryan Bensetti. Bonjour à tous les deux.
Et bonjour.
Bonjour, Alain.
Merci d'être là avec nous. Je suis très heureux de vous avoir. Vous avez fait tous les deux un carton au mois de janvier, justement, avec vos séries. Pour l'un, c'était Vortex. Pour l'autre, c'était Lycée Toulouse-Lautrec. Deux magnifiques séries.
Est-ce qu'il y a une préférence, Alain, sur...
Non, moi, franchement, les deux ont été les événements de ce début d'année. Elles ont été incroyables. Je sais que t'as envie de mettre un petit peu de tension là-dessus, mais Vortex et Lycée Toulouse-Lautrec, c'était les deux plus belles séries de cette rentrée. Voilà. T'as vu?
Ça fait très plaisir.
Ah. Bon.
Si je ne pense pas la même chose, mais.
Il y en avait une qui était un peu mieux que l'autre, mais bon, ça c'est pas...
Voilà, mais bon, on va pas tout dire. Bon, là, en tout cas, on a bien ri. On a eu la chance de voir le film en avant-première au Festival de l'Alpe d'Huez, une avant-première Amazon. Et franchement, vous avez dû vous éclater sur le tournage, franchement, tous les deux, non?
C'était le meilleur tournage, en tout cas pour ma part, que j'ai fait. Tous les jours, il y avait une connerie, tous les jours, il y avait une cascade, tous les jours, il y avait des fous rires. Et en plus de faire un film choral, ça tue, quoi. On est tous ensemble, et puis il y a suicide, quoi.
Ouais, moi, j'ai beaucoup rigolé. C'était assez fou, c'était intense.
Comment vous définiriez déjà vos rôles à tous les deux?
Alors oui, Pablo, c'est celui qui ramène un petit peu les substances à la soirée.
C'est le dealer, c'est l'hypersensible.
Voilà, c'est exactement ça. C'est le dealos. C'est moi qui ramène la bim bam boum, qui fait voilà la fin de la phrase. Merci.
Ouais, voilà, qui fait un peu le very bad trip de cette histoire aussi.
C'est un petit peu de ma faute, mais tout le monde est dans le même délire, mais c'est moi qui rapporte la drogue, voilà.
Alors, on découvrira que Pablo a quand même un petit antécédent avec Madame le Maire et qu'il va pas l'épargner.
Il y a pas que ça. Oui, pardon. Excuse-moi. Il y a toute une phase avec Marielle Pichu.
Virginie Hoc.
Oui. Très très forte.
Qui est brillante.
Ouais, très très forte. Qui m'a fait beaucoup rire. Toute une phase où mon personnage veut en découdre parce qu'il a des soucis liés à l'enfance. Mais ça, vous allez les découvrir si vous regardez le film. Et j'ai une phase aussi en clown. Je me doutais pas que ça allait rendre un peu flippant comme ça. Donc je suis très content. Voilà.
Bon, Samy, lui.
Samy, écoute, Samy, c'est... Samy, c'est la folie, hein. Samy, c'est la folie. Au début, il commence... Tout commence un petit peu avec le personnage de Samy qui se jette du troisième étage et qui arrive sur la voiture. Qui atterrit sur la voiture, on le voit dans la bande-annonce. C'est le début des problèmes. Bah, justement, le choc générationnel. Et en fait, Samy, il a un truc, je pense, qui ne va pas dans sa tête. À partir du moment où il prend la bim-bam-boum de Pablo, il switch. Bon, on peut pas tout dire, mais il y a un moment où on veut brûler une voiture. Chacun a vraiment sa manière de faire. On reste tous dans un personnage, tu vois, qui est bien propre à nous. Et je trouve que...
Et Ryan m'a fait... énormément rire sur des phases. Est-ce que je l'ai dit par exemple?
Je l'ai pas dit. J'ai par exemple, il y a un moment où il y a un ours en ballon géant qui s'envole et donc il y a vraiment tout le monde qui regarde l'ours et je suis le seul fou qui regarde le sol et qui bug parce que j'ai fait tomber mon joint par terre, tu vois.
Et
je reste bugué là-dessus, tu vois, tous les trucs. En fait, mon personnage a un décalage. Tu vois, tout ce qu'il voit, tout ce que les gens voient, lui, il le voit après. C'est des vannes visuelles, vraiment sans parler, mais je trouve ça assez drôle.
Mais je suis pas sûr que les gens vont voir, mais moi c'était mon éclat de rire. Vraiment, cette ours qui monte, t'as un plan large, tout le monde regarde, on dit oh, il monte, et t'as vraiment Samy qui est par terre, focus, voûté, c'est genre en mode bossu. Et là j'ai explosé. Mais c'est des petits détails. Ouais,
Et on va pas tout dire, et on va surtout pas dire quelle partie ça concerne. Mais Samy aurait-il pas fait un peu de chirurgie esthétique quand même?
Pourquoi tu dis ça? Non, pas du tout. Bah, Samy, écoute, Samy est bien membré, j'ai envie de te dire. Il y a un moment un petit peu intimiste dans la vie de Samy.
Est-ce qu'il y a une scène particulière que vous allez garder en mémoire et que vous allez dire, putain, celle-là quand même, c'était quelque chose?
Ludovic.
Moi, j'ai beaucoup aimé un moment dans le film, en clown, je lance des cocktails Molotov. Et c'était assez jouissif à jouer. Toutes mes phases en clown, j'ai beaucoup aimé les faire. Mais je me suis beaucoup tapé des barres parce qu'on était un peu en duo. Il y avait Ryan et moi et les deux nanas, Lola Dubini et Manon Azem de l'autre côté. Et du coup, on faisait un peu notre aventure ensemble avec Ryan et on se faisait des phases, on essayait de se faire rire.
On a vraiment eu le film, tu sais, qui s'est passé. Il y a eu deux films en fait. On s'est fait le nôtre.
On se faisait des grimaces tout le temps.
Ouais, si tu veux, c'est qu'on essayait de se faire rire, mais ça se voit, mais on est censé être fous. Enfin, la
ça passe. C'est nous monter à la tête. Ça passe crème.
Vraiment. Et moi, pour Samy, je tire beaucoup de mortier, comme tu peux le constater. Et à chaque fois, on devait me brancher. Donc, en fait, j'avais des câbles qui arrivaient dans le dos et on m'activait des explosifs. Et donc, je peux pas tout dire, mais il y a quelque chose qui brûle à un moment. Et c'était une scène assez folle à jouer. Alors c'était assez fois joué, mais si tu veux, j'avais l'habitude en général des mortiers qui me donnaient. Jusqu'à un jour où t'as vu le moment où je reviens un petit peu énervé. On me dit c'est pas les mortiers que d'habitude. Tu vas juste reculer un petit peu. Je dis ok, pas de problème. Et en fait, je vois qu'on ne m'attache pas, qu'il y a pas de. Et en fait, c'est les espèces de feux d'artifice, tu sais, du 14 juillet. Quand j'ai vu le truc, personne n'était au courant sur le tournage, si tu veux, qu'il allait avoir ce genre d'explosion. Il était 4h du matin, devant un hôtel à Val Thorens. Il y a des gens qui ont payé leur semaine, d'ailleurs, je m'excuse. C'est réel. La scène du cirque, on s'est pris des vases. Il y a des gens qui jetaient des vases de... Stop, arrêtez, tirer des feux d'artifice à 3h du matin, criant « Tahia Jezeir, vive l'Algérie !» Ça n'allait pas.
Ryan est fou parce que... Tu l'as fait sautes sur la voiture.
En fait, j'ai voulu faire toutes mes cascades, j'ai demandé à tout faire quoi.
Tu vois, moi, limite, faut ouvrir une porte, je dis, on peut pas me doubler, j'ai peur de me casser quelque chose. Lui, c'est en mode, Ryan, c'est dangereux. Ouais, pas de souci, vas-y, je le fais, je suis chaud.
C'est un film de fou, mais qui va tellement nous faire rire. Ça sort sur Prime Video et ne le ratez pas, ça s'appelle BDE. Merci Ryan, merci Ludovic d'avoir passé ces quelques minutes avec nous et on vous dit à très bientôt en tout cas.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On recevra justement Redouane Arjan pour nous parler du film Ouria. On parlera également avec Muriel Carnet de La Syndicaliste qui va sortir au cinéma. Un film à ne pas manquer également. On aura Laurent Kérusoré également qui va nous parler musique. Il va nous faire découvrir en avant-première son titre Barbara en intégralité. Dans Chute, on écoute la télé.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure. 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Sainte à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.